sur France Inter, c'est l'heure du journal avec Marion Lourd. Bonjour Marion.
Bonjour à tous. À la une ce matin, rattraper le temps perdu. Beaucoup de commerces ouverts pour ce premier dimanche de déconfinement. Les clients sont au rendez-vous, presque trop parfois. Reportage à Saron dans le Loiret. La police sans justice, c'est le totalitarisme. Le ministre de la Justice défend l'institution face aux accusations de laxisme des policiers. Le ministre de l'Intérieur lui pointe un manque de moyens. Sur le sujet, le gouvernement semble se diviser. Dans ce journal encore, les salariés de la fonderie automobile MBF dans le Jura menacent de faire sauter leur usine qui pourrait bientôt fermer. Les sports, suspense au sommet dans le championnat de France de football. Lille et le PSG se disputent le titre à distance. Et après la mort du cycliste de 109 ans, Robert Marchand, nous irons à la rencontre de ses centenaires sportifs. Et puis nous serons au musée de la Bourse de Commerce qui vient d'ouvrir. Un visiteur surprise hier, vous verrez.
À 8h20, nos invités sur France Inter, les conséquences des 11 jours d'affrontement entre Israël et le Hamas. Le cessez-le-feu est en cours. Chaque parti crie victoire. Question pour Frédéric Mettezo, notre envoyé spécial à Gaza. Et question pour Charles Anderlin, ancien correspondant de France 2 en Israël et dans les territoires palestiniens, auteur de nombreux livres sur ce conflit qui semble insoluble. Le dernier en date aux éditions Don Quichotte Seuil, il raconte 50 ans de journalisme dans la région. Titre du livre de notre correspondant à Jérusalem.
France Inter. À vos cartes, prêts, partez. Premier week-end déconfiné dans les commerces dits non essentiels. Magasins ouverts exceptionnellement le dimanche jusqu'à la fin juin pour rattraper le temps perdu dans plusieurs départements. Le Cher, la Haute-Vienne, le Lot, l'Oise, les Hauts-de-Seine, le Calvados, entre autres. Et les clients sont au rendez-vous. Reportage au Retail Park de Saron, dans le Loiret, Marine Protet.
Rien qu'à voir le nombre de voitures sur le parking, on imagine le monde dans les magasins et notamment dans les cabines d'essayage.
Qu'est-ce que t'en penses, Maëlle ?
Ludovic tourne sur lui-même, se regarde dans le miroir, demande conseil à ses trois enfants, des moments qu'il avait presque oubliés.
Ça fait bizarre de faire les magasins, hein. Mais bon, ça fait toujours plaisir de les retrouver ouverts. Tout le monde essaye un peu, tout le monde se fait plaisir et puis voilà, c'est la sortie du samedi.
Sortie du week-end aussi pour la famille Loiseau. Ils sont venus à 4, 3 générations, les grands-parents, la fille et la petite-fille.
C'est vraiment agréable d'avoir cette impression de revivre comme avant, de revoir les gens sortir et de revoir un peu ce côté social qui manquait énormément à être tous confinés, chacun chez soi.
Et que les gens aient pu se sourire aussi.
Ouais, hein. C'est ça.
Et toi, qu'est-ce que ça te fait de retourner dans les magasins ?
C'est bien. Comme ça, la vie, elle achète des trucs.
Et forcément, ce n'est pas pour déplaire aux commerçants, même si certains ont du mal à se faire au rythme. Après un mois et demi sans travailler, Valentine, vendeuse chez Intersport, se sent complètement dépassée.
On doit gérer les clients, être disponible pour eux, les conseiller et en même temps pouvoir faire le rangement. Notre mise en rayon, la remise du magasin au propre et tout ça, c'est un peu compliqué.
Compliqué aussi parfois de satisfaire la demande. À cause des confinements, les retards de livraison sont importants. Chez Intersport, notamment, impossible pour le moment de trouver une planche de surf pour enfants ou un cerf-volant.
Marine Protet, France Bleu Orléans. Déconfinement sur fond de baisse de l'épidémie. Moins de 20 000 patients Covid à l'hôpital. Désormais une première depuis fin octobre et ça baisse aussi en réanimation. Mieux, la perspective d'une reprise épidémique s'éloigne. Pour cet été, l'Institut Pasteur met à jour ses prévisions au vu des dernières évolutions. Les scientifiques dessinent un scénario optimiste, mais sous condition, il faut que la vaccination s'accélère. Et au chapitre « Ça va mieux », depuis minuit, le test PCR n'est plus obligatoire pour se rendre de France en Allemagne. La situation sanitaire ne le justifie plus, selon Berlin. Soulagement des frontaliers, vous l'entendrez dans le journal de 9h sur
Marion Lourd, oui, cette déclaration dans la presse ce matin. La police sans justice, c'est le totalitarisme.
Déclaration du ministre de la Justice comme un écho à l'entretien accordé hier par le ministre de l'Intérieur au journal Le Parisien. Le problème de la police, c'est la faiblesse des moyens de la justice, disait Gérald Darmanin. Tout ça intervient à la fin d'une semaine marquée par des manifestations de policiers mettant en cause la justice et auxquelles le ministre de l'Intérieur a participé. Élodie Forêt, les deux ministres tentent de montrer un front uni, mais tout ça est assez fragile.
Vendredi, les deux ministres attablés devant dossier et café posent devant un photographe. L'image est postée sur les réseaux par Éric Dupond-Moretti qui légende police et justice travaillant ensemble quotidiennement. Officiellement, c'est donc un front uni que les deux membres du gouvernement tentent de montrer, mais par presse interposée ce week-end, l'ancien Sarko-boy et l'ex-star des barreaux fissurent légèrement cette belle unité. Gérald Darmanin justifiant hier les propos des syndicats policiers et dénonçant dans Le Parisien la faiblesse des moyens de la justice. Éric Dupond-Moretti répondant ce matin dans le journal du dimanche et défendant défendant son ministère dont le budget, dit-il, a bondi de 21% en 4 ans. Une hausse historique selon le garde des Sceaux. Les deux poids lourds du gouvernement sur un fil donc, tentant de s'épargner tout en préservant leurs institutions respectives. Un pas de deux en attendant une prise de parole forte d'Emmanuel Macron sur le sujet. Pas encore à l'ordre du jour.
Élodie Forêt du service politique de France Inter, merci. Face aux craintes de fermeture, des salariés menacent de faire sauter leur usine. Ça se passe à la fonderie automobile MBF à Saint-Claude, dans le Jura, 280 emplois. L'entreprise fabrique pour PSA et Renault des éléments de moteur et de boîte de vitesse, beaucoup moins prisés ces derniers temps. Le tribunal de commerce se penche sur son sort mardi, mais la seule offre de reprise ne satisfait pas les syndicats. Plusieurs salariés sont en grève de la faim et ils viennent d'installer des bonbonnes de gaz sur le parking et près des machines. Geste désespéré défendu par Naïl Yassine, délégué CGT chez MBF.
Ça fait 52 jours de mobilisation, d'initiatives qu'ils n'ont pas réussi à faire bouger les lignes, puisque le 25 mai prochain, une audience au tribunal de commerce de Dijon va se tenir et nous craignons que soit actée la liquidation. J'ai du mal à le prononcer, mais 52 jours, c'est énorme. Les salariés n'en peuvent plus, sont épuisés. Le choix qui a été entrepris par les salariés d'installer des bonbonnes de gaz, d'oxygène, pour eux, c'est peut-être l'ultime dernière solution pour pouvoir se faire écouter au plus haut niveau de l'État. Je crains le pire puisque on commence déjà à entendre des vautours tourner autour de l'usine pour ramasser les machines, les pièces. Et ça, les salariés ne laisseront pas faire. S'il faut tout faire sauter, ben ils feront sauter cette usine. Personne pourra en bénéficier.
Le délégué CGT chez MBF, joint par Sonia Princey pour France Inter.
À l'étranger, un sursis pour les habitants de Goma, en République démocratique du Congo.
La coulée de lave du volcan Nyiragongo s'est arrêtée. Un ciel rouge, une odeur de soufre. L'éruption avait démarré la nuit dernière. Des milliers d'habitants fuient toujours la ville. En 2002, la précédente éruption avait dû tuer plus de 100 personnes. La manifestation semble d'un autre âge. À Dakar, au Sénégal, aujourd'hui, un collectif soutenu par le Rassemblement islamique appelle à manifester pour demander que l'homosexualité soit criminalisée. Autrement dit, qu'elle passe de simple délit dans le pays à crime avec des peines jusqu'à 10 ans de prison. Au Sénégal, les personnes LGBTQ doivent se cacher, comme ce président de l'association Prudence, rencontré par l'envoyé spécial de France Inter, Nathanaël Charbonnier.
Il s'appelle Djamil Bangoura et pour le rencontrer, il faut quitter Dakar pour une petite ville du pays. Parce qu'ici, au Sénégal,
les homosexuels sont considérés comme des animaux.
Et Djamil sait de quoi il parle. Sa vie est faite d'insultes. On le traite de gourdigaine, un homme-femme en Wolof. Mais c'est surtout une cible, pas moins de 7 agressions, dont la dernière lui a laissé une cicatrice sur le ventre.
Selon le médecin, j'ai eu la chance. Mais vous voyez, c'était profond, non ? C'était vraiment profond, ça, c'était ouvert carrément.
Être gay au Sénégal, c'est prendre le risque d'être dénoncé à tout moment, mais c'est surtout servir de bouc émissaire.
Dieu va maudire le Sénégal. Et la pauvreté, les maladies, tout ça, c'est parce qu'on pratique l'homosexualité.
Et malgré le risque, Djamil témoigne, car il croit encore que tout n'est pas perdu. Il en appelle pour cela à la communauté internationale qui doit conditionner ses aides à la défense des personnes LGBT.
Si la communauté internationale prend position très claire pour dire que l'article 319 alinéa 3, il faut abroger cet article.
Supprimer l'article 319 alinéa 3 qui pénalise l'homosexualité, un article qui, ironie du sort, date de l'époque où le Sénégal était français. À Dakar, Nathanaël Charbonnier, France Inter.
Un reportage à retrouver sur franceinter.fr. À l'étranger encore, Martine Bachir s'excuse ce matin. Le journaliste est mis en cause depuis la semaine dernière et ce rapport qu'il accuse d'avoir falsifié des documents pour tromper Lady Diana en 1995 et obtenir pour la BBC l'interview choc où la princesse révélait ses infidélités et celles de son mari. Bientôt des spectacles, peut-être au théâtre de l'Odéon à Paris. Les intermittents qui l'occupaient l'ont évacué vers 6h ce matin. Le mouvement soutenu par la CGT réclamait la reconduction de l'année blanche pour cause de crise sanitaire. Et au programme culturel de ce week-end déconfiné, il y a la Bourse de commerce de Paris, tout juste ouverte au public dans le quartier des Halles. Pour la visiter, il fallait réserver et les premiers visiteurs sont venus de loin. Stéphane Capron les a rencontrés.
11h30, c'est le sésame.
Jacques est heureux de montrer son billet. Il vient de Colombey-les-Choiseul en Haute-Marne. Il a fait de la route pour être l'un des premiers visiteurs de la Bourse de commerce.
Donc je me suis levé à 4h du matin. J'ai pris le train, le métro et donc je suis là pour découvrir ce bâtiment et cette collection.
D'autres, comme Marie-Antoinette, sont venus en voisine.
Dire que j'ai vécu à côté de cette Bourse du commerce au début de mon mariage et que je voyais toujours ça fermé, et si mon époux était encore de ce monde, eh ben, il serait content.
La Bourse est devenu un musée grâce à François Pinault qui a tenu à accueillir les visiteurs. Jacques n'en revient pas.
C'est formidable.
Je vous souhaite une bonne visite.
Ben écoutez, je vous remercie infiniment, monsieur.
J'espère que bravo ça, pour ce... l'endroit vous plaira et que les collections que vous allez voir, les œuvres que vous allez voir vont...
J'en suis sûr, absolument.
Donc cette forme ronde, elle vient à ce moment-là. Mais aujourd'hui, il en reste finalement relativement peu de choses.
Tout au long du parcours, des médiateurs expliquent l'histoire du bâtiment et celle des œuvres. Elles sont bienvenues pour Florence.
On est très bien accueillis. Les médiateurs sont venus nous voir, nous expliquer les œuvres, nous expliquer l'architecture du bâtiment. Les œuvres sont peut-être pas ce à quoi on s'attend dans un bâtiment aussi classique.
Pour cette première journée, 2500 visiteurs ont pu découvrir la Bourse de commerce.
Enfin, une première depuis 30 ans, la France, deuxième du concours de l'Eurovision. Barbara Pravi, saluée par le président de la République lui-même pour, je cite, « ce rêve fou de faire briller la France ». C'est finalement le rock des Italiens de Maneskin qui l'emporte, un autre genre de beauté. Io ho scritto pagine e pagine, ho visto sale poi lacrime, questi uomini in macchine non scalare le rapide, scritto sopra una lapide, in casa mia non c'è Dio, ma se trovi il senso del tempo risalirei dal tuo oblio, e non c'è vento che fermi la naturale potenza, dal punto giusto di vista del vento senti l'ebbrezza, con la lincera alla schiena ricercherò quell'altezza, se vuoi fermarmi di testa prova a tagliarmi la testa perché...
C'est du rock alors, ouais, très bien. Moi je préfère Bill Haley, Eddie Cochran, Gene Vincent ou Buddy Holly, sans oublier bien sûr Chuck Berry. Bon, il est 8h11, c'est l'heure des sports.
Et l'actu sport aujourd'hui, c'est cette question. Qui va régner sur le football français? Le PSG, les nordistes du LOSC ou même Monaco? Réponse 21h avec ces matchs de la dernière journée de championnat. Brest contre Paris, Angers face à Lille. Une fois n'est pas coutume, le suspense reste entier, Cédric Guillou.
Contrairement aux dernières saisons au cours desquelles le champion et certains relégués étaient déjà connus bien avant le début du mois de mai, l'incertitude réside aujourd'hui à tous les niveaux. Lille et le Paris Saint-Germain, qui sont séparés d'un point, luttent pour le titre. Même si Monaco a peu de chances de passer devant les Lillois et les Parisiens, ils sont même mathématiquement trois à pouvoir finir champion de France. La raison invite les Monégasques à surtout penser à garder leur place sur le podium, place qualificative pour la Ligue des Champions qui est convoitée également par l'Olympique Lyonnais, qui est à un point de Monaco avant cette dernière journée. Trois équipes visent aussi une qualification en Europa League et pour la toute nouvelle Europa League conférence, Marseille, Lens et Rennes. Dans le bas du classement, la mission est d'éviter la 18e place, la place de barragiste. Cinq équipes sont concernées, Bordeaux, Brest, Nantes et puis Strasbourg et Lorient qui vont s'affronter ce soir à la Méno pour un match où le perdant, s'il y en a un, aura vraiment du souci à se faire.
En rugby, Toulouse a déjà sa couronne, 5e Coupe d'Europe remportée par le Stade Toulousain hier face à La Rochelle. C'est un record. Le demi de mêlée Antoine Dupont en majesté, sacré meilleur joueur européen de l'année. On passe à l'esprit sport. J'ai 100 ans et je suis bien content, disait la chanson. Laetitia Bernard, bonjour.
Bonjour.
On a appris hier la mort à 109 ans de Robert Marchand, l'homme qui battait tous les records cyclistes dans sa catégorie des plus de 100 ans. Et Laetitia, est-ce qu'il y a d'autres phénomènes comme lui?
Oui, avec le vieillissement de la population, de toute façon, le nombre de centenaires se multiplie. En 2050, la planète devrait en compter 3 400 000 selon les démographes des Nations Unies. Mais jusqu'à quand et jusqu'à quel niveau peut-on pratiquer une activité sportive? L'an dernier, Ouest France partageait le témoignage de Lucie qui fêtait ses 100 ans dans la salle de sport où elle venait 4 fois, une heure par semaine, faire de la musculation. Une règle à laquelle elle n'avait pas dérogé depuis 50 ans.
Je ne fais pas de régime. J'ai mon poids depuis toujours, je n'ai jamais eu de balance, je n'ai jamais rien fait. Un régime régulier, une vie régulière.
Et donc beaucoup de sport. On pense aussi à Papy Pong où Jean-Paul a 100 ans en 2019. Lui, il s'entraînait 2 à 3 fois par semaine dans le club qu'il avait créé en région parisienne en 1946.
Et en 2016, une étude franco-australienne s'est penchée, Laetitia, sur les records et les performances de ces champions centenaires dans le monde.
Dans 3 grandes disciplines précisément, natation, athlétisme et cyclisme. Alors, bien sûr, les performances sportives, elles déclinent au fur et à mesure qu'on prend de l'âge. Selon les données connues, à partir partir de 35 ans, elle baisse de 7 à 14% en moyenne par décennie. Et donc, l'étude, elle a quand même identifié 60 records par 15 hommes et 4 femmes. Alors, certains pourraient donner envie de sourire, hein, comme ces 90 cm franchis en son en hauteur, attention à la réception, par un Américain, Donald Pillman, ce même Américain qui, à 100 ans tout juste, courait le 100 mètres en 26 secondes et 99 centièmes, bien loin des records de Usain Bolt et des sprinteurs actuels qui descendent régulièrement sous les 10 secondes. N'empêche qu'à cet âge-là, ça reste de sacrés résultats. L'étude soulignait d'ailleurs que ces exemples positifs pourraient ouvrir de nouvelles perspectives sur la manière dont le corps humain peut résister aux effets du temps. Et les chercheurs commençaient même aussi à envisager que dans un futur proche, on pourrait s'intéresser bientôt à de nouveaux records, ceux des 110 ans et plus.
Merci à vous Laetitia Bernard, toujours jeune donc.
C'était Esprit Sport, Laetitia Bernard et bien sûr le journal avec Marion Lourd. La météo tout de suite.
La météo avec Air France Protect. Réservez avec la plus grande flexibilité et voyagez en toute sérénité sur l'ensemble des vols Air France. Rendez-vous sur airfrance.fr.
Jean-Michel Golinski de Météo France est avec nous en ligne.
Une journée de répit avant l'arrivée d'un front pluvieux et venteux ce soir par la pointe bretonne. En fin de nuit, il faisait 2 à 4 degrés sur le Lot, l'Aveyron, les côtes d'Armor et le Morbihan, déjà 13 à 16 sur les villes méditerranéennes et 5 à 9 sur les autres régions. Cet après-midi, il est prévu 23 degrés en moyenne autour de la Méditerranée, 18 à 20 de l'Alsace à Rhône-Alpes sur le bassin parisien et du centre Val-de-Loire au sud-ouest, 16 à Rouen et Rennes, 17 à Lille et 14 degrés sur le littoral de la Manche, avec une certaine amélioration par rapport à hier, même si le ciel est encore assez chargé dans l'ensemble. Les ondées seront rares, avec un risque plus particulier des Pyrénées centrales à la Méditerranée et à proximité de la Manche. Ceci avant la dégradation prévue en fin de journée par les départements bretons. Reste à signaler le risque d'avalanche, toujours marqué aujourd'hui en altitude sur les Alpes.
Jean-Michel Golinski de Météo France, merci.